Jean chapitre 21, c'est le dernier chapitre de ce merveilleux livre. Jean a écrit ce livre avec un seul but, c'était que nous reconnaissons que Jésus est donc le Messie, le Christ, et qu'il est le Fils de Dieu, et en croyant ceci que nous ayons la vie éternelle. Là, quand même, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et chapitre 21, qui semble quelque part comme un prolongement, parce qu'on aurait pu facilement arrêter après verset 31, mais ça prolonge, hein, ça continue. Ça nous apprend encore deux, trois choses sur Jésus et aussi sur Jean. Parce que, à l'époque, il faut savoir que quand Jean a écrit l'Évangile, c'était assez tard dans sa vie. Il était déjà pasteur à l'église d'Éphèse. Et il a subi déjà pas mal d'épreuves. Par exemple, on a essayé de l'exécuter en le trempant dans une grande piscine d'huile brûlante. Il a survécu miraculeusement par la puissance du Saint-Esprit. Et donc, il paraît que, comme Jean était fort en parole, très puissant dans son ministère par le Saint-Esprit en lui, ben, les Romains, puisqu'ils ne pouvaient pas l'arrêter physiquement, donc ils l'ont envoyé là où il ne pouvait plus parler à personne. Et c'était l'île de Patmos. Alors, la question... Après, c'est, et il y a plusieurs points de vue, est-ce que Jean a écrit cet évangile après ou avant Patmos? Bon, ça je laisse aux experts. Mais ce qui est surtout intéressant, enfin pour moi, je trouve, c'est que il y avait une rumeur. Le bruit courait que le Seigneur n'allait pas revenir avant la mort de Jean. Et les gens, à cette époque, ils croyaient tellement que le Seigneur puisse arriver dans un instant, qu'ils vivaient dans l'attente. Justement, en 2 Thessaloniciens, Paul exhorte les Thessaloniciens à travailler. Si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas. Parce qu'il y avait des gens qui vivaient dans le désordre, comme à Jérusalem après la Pentecôte, hein, les gens ils vendaient des choses, ils attendaient tellement réellement la venue du Seigneur, ils attendaient pas seulement le retour immédiat du Seigneur, mais que le Seigneur revient et qu'il s'installe comme le roi des rois sur la terre. Et que nous entrions dans cette période messianique. Ils y croyaient littéralement et réellement. Et pour ça, nous allons en parler peut-être plus la semaine prochaine. C'est pour ça, ça nous aide à comprendre pourquoi les gens, et surtout 2000 ans après, pourquoi les gens croyaient vraiment que le Seigneur ne va pas revenir avant que Jean ne meure. Alors gardons ceci à tête. Et nous allons commencer ce chapitre qui a justement, à un de ses buts, c'est de répondre à cette question. Est-ce que le Seigneur a dit réellement qu'il ne revienne pas avant la mort de Jean ou pas? Et donc nous allons voir la réponse à cette question dans ce chapitre. Verset 1. Après cela, donc après que Jésus s'est apparu à Thomas, et après ces merveilleuses rencontres avec le Seigneur, Jésus se manifesta encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Alors, où est la mer de Tibériade? En fait, c'est un autre nom pour Galilée. Donc, c'est la lac de Galilée, tout simplement. C'est la même chose. C'est là où il y avait cette ville nommée pour César Tibère, et donc pour les gens de cette région, tout la lac a adopté ce nom. Et n'oublions pas que Jean, il écrit justement à des gens à Éphèse, des gens qui ont plus une culture grecque ou romaine qu'autre chose. Donc pour eux, c'est plus facile à se situer ainsi. Alors, pourquoi Galilée? Dans Matthieu 28, verset 10, nous avons la raison pourquoi. Et c'est donc Jésus qui donne les instructions. Alors Jésus leur dit, c'est après sa résurrection, « Soyez sans crainte, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Nous savons qu'il s'est manifesté à eux le jour même de sa résurrection, mais il a fixé rendez-vous en Galilée. De toute façon, il ne pouvait pas rester tout le temps à Jérusalem. Il n'avait pas les moyens. Ils étaient de Galilée. C'est là où il fallait qu'il rentre pour l'instant, avant le Pentecôte. Et donc, c'est à Galilée. Et c'est intéressant parce que c'est en Galilée où tout a commencé justement pour ces gens. Et je crois que Jésus avait un rendez-vous nécessaire pour eux. Alors, verset 2. Simon, Pierre, Thomas, notez bien que maintenant Thomas, il fait bien partie des disciples. Donc, il y est. Il y a Nathanaël de Cana en Galilée et les fils de Zébédée et deux autres des disciples étaient ensemble. C'est marrant qui est donné dans cette liste. Il y a Simon-Pierre, Thomas, Nathanaël et les fils de Zébédée qui sont identifiés dans notre évangile comme les fils de tonnerre. Alors là, on a tous les mauvais garçons dans le même bateau, si vous voulez. Il y a Nathanaël, le critique, il y a Thomas, celui qui a les grands hauts et bas, il y a Pierre, où on connaît beaucoup de choses. Et puis on est aussi les fils de Zébédée, les fils de tonnerre. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on réunit tous les mauvais garçons? Cette fois-ci, bon, ils sont bien sûr changés, mais c'est intéressant que ça se passe entre eux. Et Simon Pierre, il leur dit, je vais pêcher. Et lui dire, nous allons nous aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans la barque. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Alors, je trouve pas que c'est un jeu de mots, là, quand Pierre dit, je vais pêcher. Non, il voulait dire que, ils vont aller à la pêche. Et pas un jeu de mots qu'il va transgresser la loi de Dieu. D'autant plus que la Bible n'est pas écrite en français, mais en grec, cette partie-là. Mais c'est intéressant parce que certains commentateurs ont relevé certains des effets. Parce que c'est intéressant. Eux, ils sont là. Ils sont là parce que Jésus leur a appelé là-bas. Et du coup, comme si rien ne se passe, donc Pierre dit, je vais pêcher. Et puis les autres mauvais garçons, oui, nous aussi. Et donc nous voyons toujours cette personnalité de Pierre, à quel point il est vraiment un meneur. Mais aussi, je pense pas que ça soit trop juste de les critiquer trop, parce qu'ils sont dans la région, c'est leur profession, c'est leur métier. Et le métier de pêcheur n'est pas un métier qui gagne énormément d'argent. Et surtout, il faut dire qu'ils ont pris 3 ans de sabbatique. Alors, il faut justement que ces gens gagnent un peu d'argent. Tout comme Paul aussi, il fallait qu'il travaille de temps en temps pour gagner sa vie. Alors, je vois plutôt l'aspect pratique de Pierre. Et aussi, parfois, il y a cette tendance chez lui où quand il n'y a rien à faire, rien à dire, il faut qu'il fasse ou dise quelque chose. Ce n'est pas quelqu'un de paresseux. Et donc, c'est une qualité quelque part aussi. Une qualité qui est raffinée par l'œuvre du Saint-Esprit en lui, bien sûr. Mais surtout, je trouve que c'est une bonne chose, sachant que Pierre, il est marié, donc il veut pourvoir à sa famille. Il se montre donc un véritable homme, un véritable homme de Dieu. Il y a un petit problème par contre, c'est qu'il ne prie rien. Encore sachant que ce sont des professionnels. Hein. Et bien même les professionnels se trompent. Il y a même des moments où des professionnels ne savent rien du tout, je m'en rappelle. On avait un problème avec notre robinet. Et donc, il y avait un professionnel qui est venu. Et il avait une très mauvaise journée. Et il voulait savoir pourquoi notre eau chaude ne marchait pas. Et donc, lui, il voulait remonter très loin dans les tuyaux et tout. Mais il y avait une solution très très simple qui me paraissait si évidente. Et donc, j'ai fermé tout simplement l'eau froide pour vérifier si l'eau chaude était toujours là. Et quand je les suggérais, il n'était pas très content parce que c'est lui le professionnel. Et ça marchait effectivement. Mais bon, c'est pas parce que je sais quelque chose de la plomberie, genre, moi je connais rien du tout, mais parfois les professionnels se trompent, tout simplement. Et ici, on a même l'idée que peut-être il y a même la main de Dieu là qui arrête ces professionnels. C'est Jésus qui les a appelés là. Jésus qui sait toutes choses d'avance savait aussi certainement que ces hommes-là allaient justement travailler et je crois fort bien qu'il avait quelque chose à leur enseigner. Qui est aussi une bonne leçon pour nous, quand nous connaissons bien notre truc et nous voyons que ça ne marche pas à tous les coups, peut-être c'est le moment de regarder en haut. Est-ce possible? Dieu est en train de nous parler, d'attirer notre attention, de nous attirer même par nos points forts. Je crois que c'est le cas ici. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage. Ah, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Donc il apparaissait souvent comme ça. Il y avait justement les deux disciples sur le chemin vers Emmaüs qui n'ont pas reconnu. Il y avait Marie-Madeleine aussi. Peut-être c'était aussi le fait qu'il pêchait, enfin, c'était le soir et c'était pas facile de le voir en plus. Quand ils l'ont vu, c'était dans une chambre enfin, fermée, une pièce fermée, et c'était vraiment de près. Ils s'y attendaient pas. Si Jésus allait suivre exactement les mêmes consignes qu'il avait fait avant, donc ils auraient plus à attendre Jésus apparaître sur le bateau qu'autre chose. Mais ils le voient de loin, en ne le reconnaissant pas. Et puis, Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils leur répondirent, « Non. » Et là, on peut très bien imaginer tout le professionnalisme irrité qu'ils avaient en disant « Non. » Mais surtout, cet inconnu qui crie « Enfant », ce n'était pas méchant de sa part, c'est plutôt, comment en français, l'égard. Est-ce que vous avez attrapé quelque chose, mais plutôt dit de la bouche d'un ancien? Donc peut-être c'est quelqu'un qui est nouvel sur la scène, quelqu'un qui s'y connaît. Et bien eux, ils doivent admettre leur défaite. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils n'étaient plus capables de le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors là, c'était le marque de Dieu. Alors, on se pose souvent la question, pourquoi est-ce qu'ils étaient si prêts à essayer autre chose? Encore, nous parlons des professionnels. Alors, une explication, c'est que Jésus qu'il voyait à cette époque, bien sûr, il y avait beaucoup moins de pollution qu'aujourd'hui. Hein. Et les gens qui buvaient de ce lac et tout, même aujourd'hui, le lac de Galilée est utilisé, purifié, bien sûr, est utilisé pour l'eau pour cette région qui est justement un des grands enjeux de cette région-là. Alors, quand l'eau est très claire, on peut voir justement des choses de loin. Bon, peut-être, ils ont tout essayé de toute façon, et peut-être cet inconnu, il voyait une chose que eux, ils ne voyaient pas. Mais c'est quand même bizarre de penser qu'il y a tellement de poissons dans un côté et pas de l'autre. Alors, pourquoi ça? Et j'ajoute à ceci que nous parlons quand même de trois hommes qui ont vécu des choses extraordinaires, qui ont tellement changé leur vie. Donc ce sont des professionnels, certes, mais pas comme les autres. Ils ont appris que le plus grand parmi eux sera le serviteur de tous. Et ce genre de formation qu'ils ont subi, parfois, de la part de Jésus, ça à briser justement cet orgueil qui enfle justement et endurcit le cœur de beaucoup de professionnels ou gens de métier. Et même quand ils ont cru sans aucun doute que le Seigneur est mort, même cette certitude a été brisée par le Seigneur. Alors, naturellement, ils commencent à écouter. C'est normal qu'ils écoutent d'autres avis. Eh bien, ok, bon, pourquoi pas. Après tout, ils n'ont rien à perdre et peut-être ils ont même loué le bateau pour bien qu'il rapporte de l'argent. Alors, ils essaient et ils attrapent une grande quantité de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Et dès que Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement, car il était nu, et se jeta dans la mer. En fait, il travaillait sans mettre tout leur vêtement, enfin, comme aujourd'hui. Enfin, les gens qui travaillent dans le bâtiment, ils s'habillent normalement, mais quand ils arrivent au chantier, donc ils mettent à côté leur vêtement. Alors, eux, dans un endroit où il fait plus chaud, ils n'ont pas besoin d'autres vêtements, donc ils mettent leur robe et tout à côté pour bien travailler. Et donc c'est pour ça. Mais je trouve intéressant qu'il met son vêtement pour nager. Alors ça montre à quel point il est hors de lui-même. Et il ne pense plus. Mais ça montre aussi qu'il est content de voir le Seigneur. Et on se pose la question, quelle était la dernière fois que vous étiez aussi content quand vous saviez que c'était le Seigneur qui était là, qui vous parliez, et qui était là, et c'était de lui. Et si vous avez à franchir 100 mètres de l'eau froide, vous serez prêt même à se plonger et nager comme lui. Ça montre beaucoup de passion. Et beaucoup d'amour aussi. Et c'est intéressant que ces gens le disent. Bon, c'est Jean qui est l'auteur. Et ça montre aussi une certaine sensibilité. Certains écoutent aussi. Il a reconnu. Peut-être il a déjà posé la question à lui-même. Est-ce que ce n'est pas un peu bizarre que nous sommes ici et nous n'avons rien attrapé? Et rappelons-nous aussi d'un autre épisode dans la vie de Jésus, dans l'évangile selon Luc, où, après avoir enseigné, Jésus a dit, lancez le bateau. Et puis, Pierre qui disait, on a travaillé toute la journée, et il l'a fait quand même. Il a lancé encore ses filets, mais cette fois-ci, ils ont attrapé beaucoup de poissons. Et c'est intéressant que c'était à partir de ce moment-là que Pierre commence réellement à suivre Jésus. Peut-être qu'il y avait justement ce rappel dans son esprit. C'est intéressant encore que le Seigneur les renvoie chez eux pour qu'ils voient les choses qu'ils connaissent bien. Mais maintenant, ils sont changés. Ils ne sont plus les mêmes. Il y a des choses qu'il faut, qui changent aussi, qui n'est plus cette nostalgie d'une passé qui ne serait jamais de toute façon. Le passé, toujours le passé, mais on peut garder le passé et on a l'exemple de la femme de Lot qui, même en voyant que sa ville était en train d'être détruite par le jugement de Dieu, elle gardait cette nostalgie, elle regardait en arrière et puis vous connaissez le reste. Et juste comme elle est devenue cette colonne de sel, gardant cette nostalgie du passé, ça nous rend immobiles. Et ça, c'est pourquoi l'auteur à l'Épître aux Hébreux, eux, ils parlaient justement de cette nostalgie en parlant aussi d'Abraham et comment ils sont partis, ils ont quitté leur ville natale pour suivre le Seigneur. Et il a écrit en Hébreux 11, verset 15, et s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ou la cité qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Mais en réalité, ils aspirent à une autre patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. Et c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Donc, c'est un processus de la formation à la fois. Il y a des moments où Dieu nous fait revoir une chose dans le passé, pour que ça soit coupé ou pour nous faire progresser. Tel est le cas ici, j'en suis sûr. Il y avait ce déclic dans l'esprit de Jean. Ah oui. Et puis, il dit, c'est le Seigneur. Il a reconnu. C'est ça ce qui est formidable, de connaître notre Dieu afin de voir son empreinte au travers des circonstances. C'est comme un savoir-faire ou comme un goût qu'on a dans la bouche. C'est familier, on le reconnaît. C'est le Seigneur. Et ben oui, il avait raison. Alors le disciple que Jésus aimait, verset 7, dit à Pierre, c'est le Seigneur. Dès que Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement car il était nu et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque en traînant le filet plein de poissons car ils étaient éloignés de la terre d'environ 200 coudées. On sait à peu près 100 mètres. Et lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un brasier, du poisson posé dessus et du pain. Alors, hier soir, Anton, dans son excellent étude biblique, a remarqué que, en fait, la dernière fois, justement, que Pierre a vu Jésus avant la crucifixion, c'était justement aussi devant un brasier dans le camp de l'ennemi. Et c'est là où il se chauffait. Et là, c'est intéressant maintenant que il revoit le Seigneur avec un brasier, mais maintenant, c'est différent. Au lieu d'être le lieu de l'ennemi, c'est le lieu d'amitié. C'est même le lieu d'accueil. Il est bienvenu cette fois-ci. Et Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Et Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 gros poissons. Quoi qu'il en a eu tant, le filet ne se déchira pas. Je suis content qu'il y a quand même ce verset 11. Parce que Simon-Pierre, il était tellement content, il se jetait à l'eau. Et puis les autres devaient attirer le reste. Et puis, C'est comme il revient à lui-même et puis bon, il donne un coup de main pour aider les autres. Alors, pourquoi il y a ce nombre des 153 poissons? Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de raisons. Alors, franchement, je crois qu'il y a ce nombre de poissons tout simplement parce que nous parlons des pêcheurs. Et on demande à n'importe quel pêcheur, comme n'importe quel chasseur, ils savent toujours exactement ce qu'ils attrapent. Bon, les pêcheurs, ils ont quand même la réputation d'exagérer, comme c'est ici des apôtres. Donc, on ne pense pas qu'ils exagèrent, mais je crois que c'était tellement étonnant. Et comme tout pêcheur de cœur, ben, ils savaient exactement combien il y avait. Ils l'ont compté. Et ben, ça restait dans l'esprit. Et Jésus leur dit, venez manger. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Car ils savaient que c'était le Seigneur. Ils étaient bien avec lui, finalement. Ils savaient. C'était bien d'être avec lui. Et ça, c'est bien. Il y a des moments où on regarde vers là-haut, il y a toute la confusion, on ne sait pas, et on se dit, mais Seigneur, est-ce que tu es là? Et puis, quand on est dans l'assemblée, en plein louange, ou en priant avec un ami, ou frère, ou sœur, il y a des moments où aussi, tout seul, avec la Bible, en prière, on ressent sa présence, c'est tellement fort, on est bien. On n'a même pas posé la question, est-ce que tu es là, Seigneur? On le sait, sa paix est là. C'est une chose précieuse, sa présence. Ils étaient bien, contents de le voir sans doute. Jésus s'approcha, il prit le pain et leur donna ainsi que le poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se manifesta à ses disciples depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. Intéressant aussi, parce que, encore, on est en Galilée. Qu'est-ce qu'il a fait en Galilée? Il a multiplié les pains et les poissons. Et là encore, sans doute, ils sont souvenus de ces choses. Ah oui, c'est bien de travailler, mais c'est Dieu qui pourvoit. Oh, il faut travailler, mais c'est Dieu qui pourvoit. C'est une bonne chose de se rappeler, surtout en face d'une crise économique. Oui, le travail, c'est une chose. À la limite, c'est vrai que nous avons un grand privilège d'être dans Europe ou en Europe où quand même les gouvernements prennent soin des gens qui sont dans le besoin. Oui, c'est bien, mais c'est Dieu qui pourvoit. Dieu qui utilise les gouvernements afin que toute la gloire lui revienne. Mais ici encore, Jésus pourvoit pour eux. Et c'est important pour eux de le savoir, car nous savons quand ils vont le voir monter dans le ciel, c'est là où il va être chargé avec la mission d'aller. Et s'ils vont aller justement dans toute la terre en proclamant la bonne nouvelle, il fallait qu'ils sachent sans aucun doute que Dieu va pourvoir pour eux. Surtout face aux menaces qu'ils vont voir. Parce que tous les apôtres, sauf Jean, finalement, ont subi des morts atroces. La providence de Dieu est nécessaire pour eux. Et certainement, cette fois-ci, il y avait tout un autre sens. Parce qu'ils sont avec le Seigneur ressuscité. C'est une providence éternelle maintenant. On ne parle pas seulement de ce royaume sur terre. Nous voyons bien au-delà. Ils sont face au Seigneur ressuscité qui pourvoit. Après, verset 15, qu'ils lui ont mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci ?» Il y a deux manières qu'on peut le prendre. Et c'est difficile parce que, en fait, dans le langage originel, le mot « ceci », en fait, ça peut être aussi bien masculin que neutre. Donc, il y a deux possibilités. Soit il dit à Pierre, maintenant qui est à part avec lui, il dit, mais Pierre, alors, est-ce que tu m'aimes plus que ton métier, finalement? Je t'ai dit de me rencontrer ici, tu es venu, et quand je tardais, tu es allé pêcher. Alors, est-ce que tu m'aimes plus que même ton métier? Je crois qu'il y a une autre idée qui est encore plus puissante, et c'est, est-ce que Pierre, tu m'aimes plus que ceux-ci, les autres disciples? Est-ce que tu m'aimes plus que eux? Parce que, ben, il y a quelques semaines, tu aides tout le monde, que ton amour était beaucoup plus grand, et que même si les autres vont abandonner, ben, toi, Pierre, non, tu es allé te tenir bon. Est-ce que tu m'aimes? Agapé, donc engagement total, absolu, un amour qui va au-delà des émotions. Est-ce que tu m'aimes plus que eux? Alors Pierre répond, et dans le texte originel, il y a une chose frappante. Pierre, il dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais attention, il ne dit pas, oui, je t'aime avec l'amour agapé. Non, il utilise une autre forme de l'amour, le mot qui nous donne l'amour fraternel en français. Donc, c'est un amour affectif. Donc, c'est une affection, mais c'est l'amour qu'on a pour un frère, pour un ami. Et c'est ça qui dit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime comme ça, comme un frère, comme un ami. Tu sais que mon affection est avec toi. Et Jésus dit, prends soin de mes agneaux. C'est fascinant, parce que Pierre, il n'osait même pas utiliser le même mot que Jésus. Et puis Jésus lui donne la charge de ses agneaux. Et c'est vraiment cette idée-là d'agneau, et pas mouton, mais les petits, là, qui est évoqué. Ce sont les petits de Jésus. Ce sont ses agneaux. Alors, prends soin d'eux. Et aussi, oui, en ce qui concerne Pierre, oui, sois un leader. Oui, remplis le rôle que Dieu t'a donné. Mais il faut prendre soin de ces gens. Il faut prendre soin du troupeau de Dieu. Et c'est ça qui a donné cet appel à Pierre. Et Jésus, il accepte même son amour imparfait. Jésus demande l'amour supérieur. Pierre ne pouvait pas le lui donner, mais Jésus l'a accepté. Et ça me parle beaucoup, parce que le niveau que le Seigneur demande est haut. Mais qu'est-ce qu'il demande? Il ne demande surtout pas les prétentions, l'honnêteté, oui. Et puis, il apprend, un peu comme la multiplication des pains et des poissons, ben lui, par la puissance de son Saint-Esprit, il perfectionne le peu que nous avons. Il comble, en fait. Pardon. Alors, il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, encore en disant fils de Jonas, c'est sérieux. M'aimes-tu? Encore le mot agapé. Est-ce que tu m'aimes sans réserve, sans condition, à 100%? Pierre lui répond, oui Seigneur, je t'affectionne. Oui Seigneur, je t'aime comme un ami, comme un frère. Il n'ose même plus avoir les prétentions qu'ils avaient avant. Mais Jésus, il accepte une deuxième fois, il dit, sois le berger de mes brebis. Berger maintenant. C'est là où vient le mot pasteur, finalement, de ce même mot. Mais c'est ça l'idée. Suivre dans les traces de Jésus, de guider son peuple comme berger conduit les troupeaux, les brebis. Et il lui dit pour une troisième fois, Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'affectionnes? Est-ce que tu m'aimes comme un frère ou comme un ami? Donc cette fois-ci, Jésus dégrade le mot amour pour être au niveau de Pierre. Et c'est formidable comment le Seigneur s'abaisse pour nous rejoindre, comme il a fait ici. Et Pierre fut attristé parce que le Seigneur, il remet même ça en question. Est-ce que c'est vrai? Et Pierre, il dit, Seigneur, tu sais toutes choses. C'est toi le Seigneur. Tu sais toutes choses. Et tu sais que je t'aime, je t'affectionne comme un frère, comme un ami. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Parce que si tu n'as pas l'amour, c'est pas la peine, tu ne peux pas prendre soin de ces brebis. Tu ne peux pas si tu n'as pas l'amour. Trois fois, Jésus a demandé à Pierre, et ça devant les autres, pour que les autres entendent. Donc, une fois pour chaque fois que, effectivement, Pierre a renié le Seigneur. Certainement, il a restauré Pierre en privé. Maintenant, il le fait devant tout le monde. Et il l'encourage, il l'exhorte à aller plus loin. C'est intéressant parce que parfois le Seigneur nous donne ces choses à cœur, une idée, une vision. Et on sait que ça doit être comme ça, et parfois c'est frustrant parce que on ne voit pas où peut-être on se lance dans ce sens-là, mais c'est pas encore le moment, on n'est pas encore prêt, le Seigneur n'a pas encore fait tout le travail qu'il avait à faire. Et puis, il y a des résultats désastreux. Tel était le cas de Pierre. Mais tout ça fait partie de la formation de cette personne. Et enfin, maintenant, dans la puissance du Saint-Esprit, dans la vie de résurrection, maintenant c'est le moment. Et enfin, le Seigneur lui donne le feu vert. Si cette idée, cette vision vient de Dieu, soyez patient. C'est bien de se lancer, mais ne vous découragez pas. Si ça vient du Seigneur, ça va arriver. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu attachais toi-même ton vêtement et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu entendras tes mains et un autre te l'attachera et te mènera là où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Après avoir ainsi parlé, il dit, suis-moi. C'est très important qu'il le dise. Parce qu'il a déjà dit, il faut que tu prennes soin de mes brebis. Or, c'est Jésus le bon brebis, le bon berger, excuse-moi. C'est Jésus le bon berger. Et puisque c'est Jésus le bon berger, donc c'est Pierre qui doit être un bon berger à l'image de Jésus. et suivre Jésus. Et avec cette grande responsabilité que Pierre a eue, le Seigneur l'a équilibré avec une grande souffrance à la fin de sa vie. Le Seigneur, il fait toujours ainsi, avec beaucoup de bénédictions, il nous équilibre, soit avec souffrance, soit avec des épreuves, pour que nous ne soyons pas enflés d'orgueil, pour que nous continuions, que nous gardions le chemin. Et c'est pour ceci, parce que il le clôture en disant « Suis-moi ». C'est-à-dire que Pierre devait suivre dans les traces de Jésus jusque dans sa mort, qui est aussi à l'image de la mort de Jésus. Pierre était crucifié comme Jésus a été crucifié. Mais Jésus, mais Pierre qui n'acceptait pas qu'il soit crucifié exactement comme Jésus, a demandé qu'il soit crucifié à l'envers. Et donc, Jésus dit, suis-moi. Mais, suis-moi jusqu'au bout. Alors Pierre, certainement, pas très content d'entendre ça. Mettez-vous à sa place. Ben, il se tourne et vit venir à leur suite le disciple que Jésus aimait, Jean. Ah oui, Jean, c'est Jean qui a reconnu Jésus avant moi. C'est Jean qui a couru plus vite que moi au tombeau. Oui, Jean. Et puis, il le vit. Et ben, il dit, ben, Seigneur, et celui-ci, Seigneur, verset 21, que lui arrivera-t-il? Et Jésus lui dit, ben, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, peu importe, toi, suis-moi. C'est ça la leçon très claire. Pierre, c'est pas à toi de regarder les autres. Toi, tu suis-moi. Mais, notez-le bien, c'est là où nous répondons à la question qu'on a posée au début de notre étude. Là-dessus, le bruit se répandit parmi les frères, que ce disciple ne mourrait pas. Pourtant, Jésus ne lui avait pas dit qu'il ne mourrait pas, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Donc rappelons-nous, à cette époque, Jean était le dernier apôtre vivant. Et donc, tout le monde disait, bah, effectivement, c'est ça, c'est la fin. Ils voyaient Jean qui avait pris l'âge. Ils ont vu les miracles, justement, en voyant tout ce qui s'est passé à lui. Et puis, il dit, ah, le Seigneur, il est deux pas de la porte, certainement. Et Jean, il inclut ce passage parce que ça montre le pouvoir de Christ de voir dans le futur, de connaître le nombre de jours des hommes. Et il souligne le fait que Jésus n'a pas dit que Jean va vivre jusqu'à ce qu'il revienne. Or, il a le pouvoir de le faire s'il veut. S'il voulait, Jean pouvait être vivant sur terre même aujourd'hui. C'est ça ce qu'il voulait dire. Mais il voulait que Jean meure comme tous les hommes. Et donc, ce rumeur, nous savons bien aujourd'hui que, comme toutes les autres rumeurs, ce n'était que du vent. Alors, c'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Ça nous fait rappel de son épître, quand il a dit que nos mains ont touché, ce que nos yeux ont vu concernant la parole de la vie. Oui, nous savons que c'est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses, si on les écrivait en détail. Je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrivait. Donc Jean s'est limité à seulement les choses qui vont exprimer une raison pour croire, qui vont inspirer les gens à croire que Jésus est le Christ. Il est le Messie annoncé par les prophètes et qui est le Fils de Dieu. Il est Dieu le Fils. Et ça, pour que nous ayons la vie éternelle. Et donc, il s'est limité à ça. Mais, si on pouvait décrire tout ce que Jésus a dit et fait, les livres, il pouvait en avoir encore bien plus. Est-ce que c'est une hyperbole? Je pense pas. Je pense que c'est plutôt un point final d'un livre qu'il a commencé dans les auteurs en disant au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est-à-dire qu'il a commencé tellement haut et puis je crois qu'il termine pour justement que les pensées encore s'envolent vers les auteurs pour que nous terminons ce livre avec la même admiration qu'on a commencé. En se disant, il a déjà fait beaucoup de choses qui sont décrites. Et s'il y en avait encore plus qui n'ont été pas décrites, waouh, nous servons un sauveur puissant qui est ressuscité en plein de gloire. C'est lui le Seigneur, c'est lui le Messie, c'est lui le Fils de Dieu.